Dans une lettre ouverte, l'ADEC annonce qu'elle fermera 5 de ses internats et 7 de ses cantines à la rentrée scolaire 2026. En réponse, Isabelle Chamorro, membre du gouvernement en charge du secteur, explique que la Nouvelle-Calédonie ne versera pas les 150 millions restant à percevoir par l'enseignement catholique. Sonia Lagarde vise un nouveau mandat à la mairie de Nouméa. Le maire sortant a annoncé ce matin sa candidature. Elle met en avant trois mots : stabilité, solidité et sérieux. L'UNC fait sa rentrée 2026. Les étudiants de première année ont débuté leur semaine d'intégration ce matin. Au programme, découverte des locaux et de la formation dans laquelle ils se sont inscrits. Dumbéa relance la médiation sociale dans ses quartiers. La ville a signé avec la Croix-Rouge française, le FSH et la SEM Sud Habitat une convention financée à hauteur de 12 millions de francs. Yolaine Yango, championne du Japon en rugby à 7. L'ancienne joueuse de l'équipe de France a remporté avec son club de Yokohama la finale du championnat national nippon. Elle nous a fait part de sa joie. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, l'ADEC qui annonce la fermeture de 5 internats cette année. La direction diocésaine de l'enseignement catholique a publié une lettre ouverte pour justifier cette décision qui intervient à une semaine et demie du retour en classe. Un plan de licenciement économique avec des conséquences pour les élèves, Michael Juneski.
Elle pointe du doigt la baisse démographique et surtout la diminution des contributions publiques à hauteur de 800 millions entre 2019 et 2025. Pour faire face à la situation, l'ADEC a réorganisé ses services et a décidé de ne pas remplacer les départs à la retraite notamment. Des leviers qui, je cite, « ont permis d'éviter des décisions difficiles, mais qui ont atteint leurs limites ». Je cite encore « Il n'y a plus d'autre choix que de réduire la masse salariale des personnels titulaires ». L'ADEC rejette la responsabilité de la situation sur les pouvoirs publics. Je cite toujours cette lettre ouverte. Force est de constater que malgré toutes les alertes lancées et les mobilisations menées, les promesses reçues des plus hautes instances de Nouvelle-Calédonie n'ont pas été tenues. C'est dans ce contexte que la direction diocésaine de l'enseignement catholique a engagé un plan de licenciement collectif à motif économique qui a été discuté avec les représentants du personnel fin décembre, début janvier. Pour la rentrée, les internats du collège Jean-Baptiste Vigouroux de Point-d'Imier, du collège Hippolyte Bonnou de Puebo, du foyer Saint-Jean de Bouraille, du collège Saint-Dominique Savio de La Foi et du foyer Saint-Léon de Païta seront fermés, comme les micro-cantines d'école de Lifou, Wailou, Ponérioin, Point-d'Imier, Touo, Yengen et Poum. Pour ces écoles, des solutions sont recherchées avec les familles. L'ADEC affirme que ces décisions ont été prises en responsabilité, car l'existence même de l'enseignement catholique en dépend. L'ADEC affirme avoir tout fait pour limiter autant que possible l'impact sur les élèves et garantir la continuité pédagogique. Nous mesurons pleinement l'inquiétude et les interrogations que ces annonces peuvent susciter. Le dialogue avec les représentants du personnel se poursuit, tout comme les échanges avec les partenaires institutionnels, afin d'explorer toutes les marges de manœuvre possibles et d'envisager, lorsque les conditions le permettront, des ajustements ou des mesures complémentaires. Peut-on encore lire dans cette lettre ouverte de la direction diocésaine de l'enseignement catholique.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui, sur ce sujet, a écrit au directeur de l'ADEC.
Isabelle Chamorro, en charge notamment du secteur de l'enseignement, avait en effet indiqué à la direction diocésaine de l'enseignement catholique avoir organisé plusieurs réunions de travail avec l'ensemble des collectivités participantes au financement des enseignements privés. Il en ressortait que les collectivités s'engageaient à honorer leurs contrats avec les établissements concernant les contributions obligatoires, que les taux de prise en charge par élève pour la restauration et l'hébergement demeuraient inchangés. Une étude est par ailleurs en cours afin d'envisager une réévaluation à la hausse du taux de la partie lycée pour l'année 2026. Par ailleurs, l'ensemble des provinces participera en 2026 au financement d'une partie de la part communale, ce qui représente une avancée importante selon Isabelle Chamorro. Le forfait d'externat pris en charge par la Nouvelle-Calédonie sera augmenté afin de tenir compte de l'évolution des charges qu'il est destiné à couvrir. La membre du gouvernement rappelle également l'aide de l'État et du gouvernement apportée à l'enseignement privé, démontrant, je cite, sans ambiguïté, la volonté de respecter les engagements. Elle réagit enfin au plan de licenciement annoncé par l'ADEC, qu'elle découvre dans cette lettre ouverte. Une décision provoquant des difficultés immédiates pour les élèves et les familles concernées, alors qu'Isabelle Champmoreau dit avoir sollicité à plusieurs reprises le directeur de la DEC afin d'obtenir ces informations dévoilées aujourd'hui et écrit même avoir proposé plusieurs rencontres refusées par le responsable de l'enseignement catholique. Une attitude, je cite, « irresponsable et qui n'est pas à la hauteur des enjeux », écrit la membre du gouvernement. Je cite encore, « Ces réformes qui auraient dû être prises progressivement ces dernières années arrivent comme un couperet par manque d'anticipation ». Isabelle Champmoreau écrit également que le directeur de la DEC a signé une convention pour s'engager à la réalisation d'un audit lors de l'attribution exceptionnelle de 400 millions de francs votée par le Congrès en 2025. Une étude financée par la Nouvelle-Calédonie pour définir un plan stratégique assurant la viabilité de la DEC. Il s'avérerait que la direction diocésaine de l'enseignement catholique n'a toujours pas apporté sa contribution à cette étude au 30 janvier dernier. Un manque d'adhésion à la démarche, déclare Isabelle Champmoreau. Dès lors que la DEC perçoit des subventions significatives, elle est tenue de justifier l'usage des fonds et l'ensemble des éléments de contrôle. Force est de constater que l'engagement n'est pas respecté, écrit Isabelle Champmoreau, parlant à l'inverse d'une démarche d'obstruction. En conséquence, ajoute la membre du gouvernement, la Nouvelle-Calédonie ne versera pas les 150 millions de francs restant à percevoir. Et de conclure, je cite encore ce courrier envoyé au directeur de l'enseignement catholique, les ressources financières de la DEC émanant quasi exclusivement des fonds publics et de la participation des familles, vous devez juridiquement et moralement vous engager à transmettre les informations attendues. Fin de citation.
Au chapitre des réactions, cette décision de la DEC aura des conséquences nombreuses et déjà à court terme pour près de 75 emplois concernés par ce licenciement économique. Les syndicats continuent de discuter avec la direction diocésaine de l'enseignement catholique à ce sujet. Écoutez la réaction de Christophe Coulson, le président de l'UTCFE-CGC.
On n'est pas très surpris finalement de ce qui est annoncé. C'est la méthode qui est utilisée encore une fois que l'on dénonce parce que ces licenciements auraient dû être annoncés en priorité aux représentants du personnel, ce qui ne me semble pas avoir été le cas. Maintenant, il y a toute une procédure qui a été mise en place par le directeur de la DEC qui n'est pas transparente du tout. Et c'est ce que nous regrettons en fait aujourd'hui, même si certaines mesures sont nécessaires. Bien évidemment, il y aura des répercussions sur les salariés, puis sur les familles en cascade. Je crois qu'il y aurait dû y avoir plus d'échanges entre la collectivité, gouvernement, les provinces et la DEC pour essayer de diminuer le nombre de ces licenciements, parce que de toute façon, les élèves, il va bien falloir qu'ils aillent quelque part. Donc forcément, d'un côté, il y a moins d'effectifs, mais de l'autre côté, il en faudra pour pallier justement au fait que les effectifs d'élèves sont toujours là. De toute façon, ce qui est aussi évident, c'est que ce plan de licenciement ne suffira pas. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème entre la Nouvelle-Calédonie et la DEC au niveau des subventions qui ont été accordées, subventions qui n'ont pas été en totalité versées par le gouvernement, puisqu'il y a une obstruction de la part de la DEC concernant les éléments à donner pour remplir les obligations de l'audit. Donc c'est encore bien dommage, quoi.
Christophe Coulson, le président de l'UTCFE-CGC. C'est également un coup dur pour les communes concernées par ces fermetures d'internats et de cantines, comme nous l'a dit le maire de la Foy, Florence Roland.
J'ai une pensée pour, bien évidemment, le personnel de l'enseignement catholique qui pourrait être impacté par cette fermeture. J'ai une pensée aussi pour les parents et les enfants qui sont internes sur cet internat de Dominique Savio. Maintenant, notre rôle aussi, c'est de pouvoir trouver des solutions pour ces enfants-là. Donc, on a à peu près 19 élèves qui seraient internes sur Dominique Savio. On est en train de travailler parce que c'est notre rôle d'élu aussi, donc la commune, les directeurs, et notamment avec l'internat provincial, afin de savoir s'il y aurait potentiellement, peut-être... autre chose à offrir à ces familles. Et nous, au niveau communal, ce qu'on souhaite voir aussi, c'est comment on pourrait mettre un service de transport pour ces enfants de Dominique Savio qui iraient peut-être s'inscrire à l'internat provincial. Donc, dès la semaine prochaine, on essaiera de proposer une solution aux familles et notamment à la direction de l'enseignement catholique, puisqu'on ne souhaite pas que ces familles soient impactées. Et l'idée, c'est que les enfants continuent eh bien, d'être scolarisés et puissent avoir une rentrée à peu près normale le 16 février prochain.
Enfin, notez que le gouvernement a publié un communiqué ce soir concernant la fermeture annoncée de plusieurs structures de restauration et d'hébergement de la DEC. Il précise que pour les familles concernées souhaitant une inscription dans un établissement public à la rentrée, les démarches sont possibles. Il sera possible de contacter du lundi 9 février à partir de 10h jusqu'au 11 février 16h directement l'établissement souhaité avec les documents nécessaires. Pour les lycées professionnels, les familles devront contacter à compter de la semaine de la rentrée l'établissement dans lequel leurs enfants étaient scolarisés en 2025 afin de formuler des vœux d'inscription. Ces demandes seront examinées par la division du vice-rectorat. Les affectations seront réalisées en fonction des places disponibles dans chaque établissement public. À défaut, une solution pourrait être proposée.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. La DEC devrait-elle, selon vous, être plus transparente sur le plan de licenciement en cours? Si vous pensez qu'elle devrait être plus transparente, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et la réponse à notre question d'hier, 71% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que le recrutement de soignants à l'extérieur se fait au détriment des personnels de soins en activité sur le territoire. Ils sont 29% à penser que ce n'est pas le cas. Le suspense était très relatif, mais Sonia Lagarde y a mis fin. Elle est candidate pour un nouveau mandat à la mairie de Nouméa avec une équipe renouvelée. Elisabeth Noir.
Stabilité, solidité et sérieux sont les trois mots que Sonia Lagarde met en avant en officialisant sa candidature pour un troisième mandat. Élue maire de Nouméa en 2014, réélue en 2020, elle sollicite donc un troisième mandat à la tête de la ville et elle affirme avoir la forme, la volonté et l'énergie pour l'assumer. Entourée d'une équipe renouvelée, elle a présenté ce matin son ambition pour ce nouveau mandat, même si elle laisse entendre qu'elle a un peu hésité.
Quelques hésitations, bien sûr, parce qu'il faut qu'on soit extrêmement sérieux quand on se lance. Mais vous savez, j'ai trois mots. C'est stabilité, solidité et sérieux. Mon bilan est là, derrière moi. Je pense que les Nouméens le connaissent. Et j'ai la forme, j'ai l'énergie, j'ai la volonté. Donc oui, j'ai annoncé aujourd'hui parce que j'ai aux Nouméens de bien vouloir une nouvelle fois me faire confiance, comme ils l'ont fait déjà à plusieurs reprises. Et ce pacte de confiance qui est établi avec les Nouméens à chaque fois, eh ben, vous oblige. Ils m'ont obligé.
Sonia Lagarde revendique qu'un bilan, l'amélioration de la qualité de vie des Nouméens et l'embellissement de la ville. Mais elle souligne aussi que la mandature qui s'achève a été très compliquée. Elle rappelle le Covid, les émeutes, la situation financière. Mais elle se prévaut d'une gestion rigoureuse des deniers publics.
J'ai fait ce qu'il fallait faire et j'ai répondu de manière concrète par la réalisation de tout ce que nous avons fait pour embellir la ville. J'ai encore des choses à faire et je le ferai si les Nouméens veulent bien me renouveler à nouveau leur confiance. Et je le ferai avec la réalité budgétaire qui est la nôtre. Les projets que je proposerai ne seront ni farfelus ni réalistes. Ils ont été sérieusement étudiés, planifiés à l'échelle de la mandature. Notre programme va sortir dans quelques jours et donc chacun pourra avoir une notion de ce que je proposerai avec une équipe composée d'anciens et de nouveaux, une équipe ouverte avec cette passion qu'ont les uns et les autres pour leur ville.
Sonia Lagarde annonce des grands projets ni farfelus ni irréalistes, mais pour le moment, elle n'en a rien dit. Elle n'a pas non plus présenté son programme et elle n'a pas encore détaillé son équipe. Mais la plupart de ses futurs colistiers étaient déjà présents autour d'elle ce matin, des anciens et des nouveaux, avec au moins une surprise, la présence d'Emmanuel Bérard, élu d'opposition de Génération NC. Il justifie sa participation à la liste de Sonia Lagarde en déclarant notamment que la situation de Nouméa et plus largement de la Nouvelle-Calédonie est devenue trop grave pour les querelles de chapelle, les divisions stériles et les ambitions personnelles.
Nous reviendrons sur ce lancement de campagne demain à 7h30 puisque c'est Sonia Lagarde qui sera notre invitée du matin. Nouméa, où Virginie Rufnacht a déjà fait acte de candidature avec une liste intitulée « Pour Nouméa, une énergie nouvelle ». Et une autre candidature a été rendue publique aujourd'hui, même si elle circulait déjà sur les réseaux. C'est celle de Véronique Forestier qui conduirait une liste citoyenne sans étiquette baptisée Nouméa le Renouveau. Une liste composée composée exclusivement de citoyens issus de la société civile, qui ne s'inscrit dans aucune logique partisane, affirme sa tête de liste, qui indique que son objectif est de remettre la mairie au service du quotidien des Nouméens. Et notez que ce soir, les élus de Nouméa se réunissent pour un conseil municipal consacré au débat d'orientation budgétaire 2026. Au chapitre judiciaire, 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. C'est la condamnation proposée à l'encontre de l'incendiaire de la maison de la famille Bulbiré à Thiot en décembre 2023, Jean-François Baudin.
Oui, la famille s'était aperçue de l'incendie en s'y rendant pour le réveillon. La maison avait brûlé pendant 3 jours sans que personne n'alerte les autorités. Âgé de 22 ans, l'incendiaire n'a été arrêté qu'en fin d'année 2025 grâce à une dénonciation dans le cadre d'une autre affaire. Le jeune homme a été peu loquace à la barre. Il dit simplement ne pas regretter son geste. Depuis, la famille a quitté la commune. La juridiction a également ordonné l'indemnisation de la famille à hauteur d'1,5 million de francs pour le préjudice matériel et 500 000 pour le préjudice moral. La famille avait demandé 10 millions de francs. Je vous rappelle que donc l'incendiaire a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis.
Et les incendiaires du local associatif de la foire de Bouraille comparaissaient vendredi en comparution immédiate devant le tribunal de Nouméa, Léo Fichou.
Oui, aucun des 4 mis en cause n'a bénéficié de la clémence du tribunal. Ils ont tous été condamnés à des peines conséquentes d'emprisonnement. Voilà ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie. Pour rappel, le 3 janvier dernier, à Téné, le local de l'association était volontairement incendié, détruit par les flammes. La brigade de gendarmerie de La Foix avait été saisie pour des faits de vol aggravés par 2 circonstances: destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, dégradation légère par inscription, signe ou dessin, et enfin vol par effraction dans un local ou lieu d'entreprise. Les investigations avaient permis d'interpeller les 4 mis en cause les 26 et 27 janvier. Lors de leur garde à vue, ils ont tous reconnu leur implication et ont même expliqué aux enquêteurs leurs gestes et le déroulé précis des faits.
Un incendie d'origine accidentelle cet après-midi, c'était à la menuiserie Léon à Ducos. 25 pompiers de Nouméa sont intervenus à 15h30 pour un silo de bois enflammé. Après 2 heures d'intervention, il n'y a plus de risque de propagation au reste des locaux de la société. Une surveillance sera effectuée jusqu'à ce soir par les pompiers pour éviter une reprise. Et cet accident de la route survenu dans le col de la pirogue ce matin, peu avant 10h, la circulation était totalement coupée et une déviation avait été mise en place par le littoral durant une trentaine de minutes. Le trafic a été rouvert dans les 2 sens et pour rappel, il s'agit d'un pick-up qui s'est retourné. Pas de blessés graves, mais une intervention des sapeurs-pompiers était nécessaire pour pouvoir dégager la chaussée dans les meilleures conditions. Le pick-up était en feu à l'arrivée des pompiers. Selon les gendarmes, ce même véhicule était recherché pour un refus d'obtempérer un peu plus tôt dans la journée à Nouméa. Les 2 personnes à bord de la voiture ont été interpellées. Il est 18h passé de 2 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal avant d'évoquer la rentrée universitaire. À tout de suite.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Chaque mardi à 11h et 15h, partez à la rencontre de ceux qui agissent pour protéger notre biodiversité. La rubrique Environnement donne la parole à des associations, des bénévoles, des scientifiques, des acteurs connus ou inconnus qui agissent pour protéger notre patrimoine naturel et exceptionnel. Une émission réalisée en partenariat avec la Province Sud.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Info soir, Léana Colombo.
C'est reparti pour une nouvelle année universitaire sur les campus de Nouville et Bacco. Si les cours débutent officiellement lundi prochain pour tous les étudiants, les premières années, eux, effectuent leur semaine d'intégration. Elle est obligatoire et concerne tous les premières années, qu'ils soient inscrits en licence ou dans d'autres sections à Nouville et Bacco. Certains sont venus seuls, d'autres entre amis ou alors en famille. Et entre stress et euphorie, les étudiants avaient hâte d'entamer cette nouvelle aventure.
Je rentre en première année de LLCER anglais et c'est un peu impressionnant parce que c'est quand même l'université. Mais en même temps, ça motive. Ce qui me fait peur là, c'est qu'il y a surtout beaucoup d'autonomie et c'est vraiment donner du travail personnel. Je sais que je vais pouvoir en donner, mais c'est sûr que ça change beaucoup du lycée et je pense que le rythme aussi et l'implication personnelle, ça va être beaucoup plus demandé. Mais je pense que ça va être difficile dans les premières semaines, mais l'important, c'est que ça va s'améliorer.
Je suis en première année de LAS, la licence accès santé, donc l'équivalent de la première année de médecine. C'est sûr que c'est très, très différent du lycée. d'autant plus que c'est beaucoup plus grand. Assez stressant, mais à la fois je me dis, ça montre qu'on grandit et c'est toujours bien de découvrir d'autres établissements.
Je suis en licence de lettres. J'ai décidé de faire une réorientation. Je trouve que cette année, l'encadrement, il est beaucoup plus supervisé. L'année dernière, on a dû un peu beaucoup plus sociabiliser pour apprendre à se connaître et tout et pouvoir s'orienter. Et franchement, le mieux que je puisse donner comme conseil, c'est de toujours participer aux cours, de toujours être motivé et surtout de toujours s'entraider. Et voilà, j'espère que la rentrée de tout le monde se passera super bien comme la mienne.
Cette semaine d'intégration a débuté ce matin avec un mot de la présidente de l'université, Catherine Ries, suivi de la visite du campus et de la rencontre avec les équipes pédagogiques. Le reste de la semaine sera consacré à des journées de cohésion et une braderie solidaire ce vendredi, avant le début des cours prévus pour tous les étudiants en début de semaine prochaine. À Dumbéa, le MNIS dénonce une coupure d'eau au squat Kawati. La vanne générale du quartier, dont l'association de la presqu'île océanienne est le titulaire, a été fermée par la Calédonienne des eaux, ce qui prive 118 familles d'accès à l'eau potable. Il dénonce une situation d'urgence sanitaire. Pour la Calédonienne des eaux, cette coupure d'eau est une décision prise après que des factures n'ont pas été payées depuis octobre 2025. Les précisions de Luc Bourgade, le directeur général de la Calédonienne des eaux.
C'est évidemment une situation regrettable parce que l'eau est un service essentiel. Néanmoins, aujourd'hui, c'est le règlement du service public de l'eau de la ville de Dumbéa qui est appliqué, comme pour tous les usagers du service de l'eau de la ville de Dumbéa. Aujourd'hui, l'association de la presqu'île océanienne, qui est titulaire de l'abonnement au compteur général et qui gère après en domaine privé, est en impayé pour pratiquement un demi-million de francs. Et nous venons d'émettre début février la facture de janvier qui s'élève à 850 000 francs. Donc comme la situation, le compte est en impayé, en appliquant le règlement du service de la ville de Dumbéa, nous avons procédé à une coupure d'eau. Mais aujourd'hui, effectivement, on doit au service de l'eau de la ville de Dumbéa, au titre du mois d'octobre, 9 464 francs, ça concerne 8 familles. Au mois de novembre, 27 898, ça concerne 10 familles. Au mois de décembre, 438 208 francs. Ça concerne 56 familles pour 115 familles, je crois, vivent dans le squat de Kawati.
La ville de Dumbéa déplore la coupure d'eau survenue au squat Kawati dans un contexte de forte chaleur qui rend cette situation particulièrement préoccupante sur le plan sanitaire et humain. L'accès à l'eau potable est un enjeu essentiel, particulièrement en cette période de canicule. Les consommateurs ont l'obligation de régler leurs factures afin d'assurer la continuité et la pérennité du service public de l'eau. La ville invite toutefois le propriétaire foncier, le FSH ainsi que la province sud, titulaire d'un bail sur ce foncier, à faire preuve de responsabilité et de discernement. À Dumbéa toujours, la commune relance la médiation sociale dans ses quartiers. La ville a signé cet après-midi avec la Croix-Rouge française, le Fonds calédonien de l'habitat et la SEMSUD Habitat une convention en ce sens, Léo Fichou.
Oui, convention qui réaffirme l'engagement de la commune en faveur de la cohésion sociale, un dispositif qui vise à renforcer la présence régulière de médiateurs dans les quartiers. À Dumbéa-sur-Mer, Auteuil ou encore Coutio, la Plaine d'Adam et le cœur de ville, financé à hauteur de 12 millions de francs environ. La commune prend en charge un tiers, soit 4 millions. Le maire de Dumbéa, Yoann Lecourieux.
C'est une attente des habitants de ces résidences, mais surtout aussi c'est une volonté de se coordonner entre les deux bailleurs sociaux avec la commune ainsi que notre prestataire, la Croix-Rouge française, de pouvoir être au plus près de la population pour pouvoir les aider, les accompagner, les informer et surtout les mettre en lien pour répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Ça porte ses fruits, ça a eu des résultats dès 2022 lorsque nous avons lancé l'opération. On a été obligé de l'interrompre en 2024. Nous sommes très heureux avec le soutien des crédits de l'État de pouvoir la relancer en ce début d'année 2026, en espérant qu'elle puisse durer, parce que c'est dans la durée qu'on va obtenir des résultats, notamment dans ces résidences, de se préoccuper et de faire attention au quotidien aux attentes de la population de ces résidences.
La commune de Dumbéa finance donc à hauteur de 4 millions de francs. Même chose pour le Fonds calédonien de l'habitat et pour la SEM Sud Habitat. Les interventions seront assurées par la Croix-Rouge française. Les objectifs sont multiples. Soutenir les publics vulnérables, améliorer le cadre de vie, encourager le vivre ensemble au quotidien. Thomas Lebreuil est le directeur territorial de la Croix-Rouge française.
Ça va nous permettre de continuer effectivement notre action, mais de lui donner un nouveau souffle. Cette action de médiation sociale, elle nous tient vraiment à cœur. C'est une action de proximité dans les quartiers de Dumbéa. On va aller vraiment à proximité des habitants, au contact des habitants, pour déjà faire du lien, et puis pouvoir leur proposer des activités structurées, des activités ludiques, des activités d'aide aux démarches. On va orienter vers différents dispositifs. Donc voilà, c'est tout le sens de cette action de proximité qui va avoir un nouveau souffle.
Des activités qui seront bien évidemment gratuites, une démarche qui vise aussi à anticiper les tensions sociales, selon Yoann Le Courrieux, le maire de Dumbéa.
Un rendez-vous d'antenne, l'emploi, secteur clé de la relance de l'économie, sera demain midi au cœur des jeudis de l'économie. Quels sont les dispositifs existants? Quand et pourquoi ont-ils été mis en place? Et jusqu'à quand? Quelles sont les marges de manœuvre pour continuer à soutenir l'emploi salarié? Dans les jeudis de l'économie, demain, Jean-François Baudin recevra Nayawa Théou, membre du gouvernement en charge du travail, de l'emploi, de la fonction publique et du handicap, Julien Barras, président de la commission emploi-formation du MEDEF, et Tony Dupré, le vice-président de la COGETRA. L'actualité diplomatique dans la région avec la visite de la présidente des îles Marshall à Canberra. C'est la première visite officielle d'un dirigeant de cet archipel en Australie depuis 1993 et c'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Hilda Haney a qualifié cette rencontre de « nouveau chapitre dans la coopération de haut niveau entre nos deux pays ». Son cabinet a indiqué dans un communiqué que les discussions qu'elle vient d'avoir avec le Premier ministre australien Anthony Albanese ont porté sur l'action climatique et les priorités régionales communes. Toujours selon le même communiqué, la présidente a également souligné l'importance de l'ouverture prochaine d'une ambassade d'Australie à Majuro, capitale de l'archipel. C'est une étape capitale dans nos relations bilatérales, a-t-elle dit, avant d'inviter Anthony Albanese à se rendre en visite officielle aux îles Marshall. Le Pacifique est là où nous vivons et nos relations avec nos voisins sont essentielles, a déclaré celui-ci en réponse. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h, passé de 11 minutes, seconde pause, avant d'ouvrir notre page sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. Tout le sport en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal avec Léana Colombo.
Et l'actualité sportive, on vous l'annonçait en début de semaine sur les terrains de rugby à 7, Yole Nyango a remporté un nouveau titre au Japon, Léo Fichou.
Oui, le championnat national féminin avec son club de Yokohama TKM, une victoire dans cette compétition à 6 clubs après la finale gagnée contre les joueuses de Yokogawa Mushisanino Artemis Stars 21-12. Yole Nyango nous a fait part de sa réaction après ce sacre au pays du soleil levant, où la pratique du rugby à 7 est en plein essor.
Une première, j'espère de gagner ce championnat. Une expérience incroyable. Sur le plan du 7, c'est vraiment en train d'exploser. Et c'est cool. C'est vrai qu'un nouveau titre à mon palmarès. Et pour la suite, c'est un peu flou, c'est un peu chaud, parce que c'est vrai que pour le coup, il y a pas mal d'opportunités un peu partout. J'ai du mal un peu à choisir un peu. Pour le moment, c'est un peu flou et j'ai pas forcément de réponse à vous donner.
Toutes les Calédoniennes qui vont t'entendre, qui te suivent, maintenant ça fait un petit moment. Et puis quand on voit également, tu as suivi forcément la nouvelle recrue de l'équipe de France, le message que tu souhaites passer à toutes celles qui veulent se mettre au rugby à 7 en particulier?
Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que vous voyez qu'il y a, là vous avez encore une nouvelle pépite qui arrive. Bien sûr que j'ai suivi tous les matchs. Et c'est possible si vous y croyez.
Yolaine Yango, jointe par Mickaël Juneski après ce titre pour sa première saison au Japon. Hasard du calendrier, une nouvelle Calédonienne jouait de son côté pour la première fois sous les couleurs de l'équipe de France de rugby à 7 lors de l'étape mondiale à Singapour, c'était le week-end dernier. À 19 ans, Anaïk Konyi, ancienne membre du pôle espoir de Nouvelle-Calédonie, a pris part donc à sa première aventure avec les Bleus, avec une cinquième place à l'arrivée.
En revanche, une mauvaise nouvelle en kickboxing pour le Calédonien Cédric Do. Il a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux qu'il se voyait contraint de reporter le match qu'il devait disputer ce week-end lors d'une réunion internationale aux Pays-Bas. Alors qu'il venait d'arriver en Europe, notre représentant a appris que son adversaire ne pourrait pas être au poids réglementaire pour le prochain combat. Cédric Do devrait combattre finalement en avril prochain en Europe. Et puis, un mot de voile sur le territoire pour signaler que l'SPTT Nouméa Glisse vient de remporter le championnat de France des clubs 2025 dans la catégorie kiteboard, Léo Fichou.
Un résultat qui n'est pas un hasard, souligne la Fédération française de voile, puisqu'il s'inscrit dans un élan initié en 2024 et une deuxième place au classement. Une victoire collective portée par l'engagement des bénévoles, le soutien des partenaires et aussi les performances des champions Phoebe Rocher, Arthur Gilbert, Stéphane Bouquet et la présidente de la SPTT Nouméa Glisse.
C'est extra pour le club, pour les jeunes qui ont participé au Challenge Kite Bureau Vallée toute l'année depuis fin 2024 et qui nous ont poussé à organiser ce challenge. Et puis pour les champions que sont Phoebe Rocher et Arthur Gilbert, parce qu'ils ne sont pas étrangers à ce résultat, bien sûr. J'ai appris la nouvelle via Aurélien Lemétayer, qui est conseiller technique à la Ligue et qui est aussi notre directeur de course. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle que on veut partager avec les licenciés ANG, avec les jeunes champions et que l'on continue comme ça, et puis avec nos partenaires, notre sponsor Bureau Vallée qui nous a permis de réaliser ces beaux résultats.
Et pour la suite, Stéphane Bouquillard espère que son club, la SPTT Nouméa Glisse, continuera de briller sur le territoire, mais aussi sur les scènes nationales et internationales, grâce à une vision, une énergie et une passion partagée pour le kiteboard.
Merci beaucoup Léo Fichou, on passe tout de suite à la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et voyons toute la météo avec vous, Pierre.
Vigilance météo, une vigilance jaune, forte pluie et orage concernera les communes de la côte ouest au nord de Moindou ainsi que Saramaya et Farino avec un risque d'averse orageuse mercredi en soirée. Cette nuit, en début de nuit, des averses localement orageuses toucheront encore le nord-ouest et la pointe nord. Plus au sud, le ciel se chargera progressivement de l'extrême sud jusqu'au Grand Nouméa avec un risque d'averse au fil de la nuit. Sur le nord-est et au Loyauté, quelques ondées isolées resteront possibles tandis que de belles éclaircies persisteront ailleurs. Le vent de sud-est faiblira autour de 15 nœuds en début de nuit, puis 10 à 15 nœuds en fin de nuit. Les températures, quant à elles, resteront élevées, avec des minimales comprises entre 21 et 26 degrés. Demain matin, au lever du jour, les nuages porteurs d'averses du nord-est à Ouvéa s'évacueront progressivement. Sur le sud du territoire, les nuages domineront encore, donnant quelques averses éparses. Ailleurs, les éclaircies résisteront. Le vent d'est à sud-est s'établira entre 10 et 15 nœuds, dépassant localement les 15 nœuds sur le nord-ouest et l'extrême nord. Côté mer, la marée sera haute ce soir vers 21h50. Elle redescendra dans la nuit autour de 3h58 avant de remonter en matinée pour une nouvelle pleine mer vers 10h27. Et côté ciel, la lune descendante restera bien visible cette nuit avec une luminosité d'environ 92%, offrant un beau clair de lune malgré les passages nuageux.
Eh bien, merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.